France Info.
Question choc pour commencer ce matin. La presse papier est-elle en train de vivre sa dernière décennie? Question qui se pose depuis plusieurs années déjà, Céline, hein, et l'un des patrons de presse les plus puissants du monde vient de donner sa réponse, pas très optimiste.
Et Mark Thompson dirige le New York Times et selon lui, le support papier aura disparu d'ici 10 ans aux États-Unis, supplanté par le web. Si tel était le cas, il faudrait alors changer la devise du journal qui s'affiche depuis plus d'un siècle sur sa une. Toutes les nouvelles qui méritent d'être imprimé, car l'impression du quotidien ne semble plus viable sur le long terme, alors que dans le même temps, le numérique bat des records. En un an, le New York Times a vu son nombre d'abonnés sur Internet bondir de 42% pour s'établir à 2 640 000. Désormais, cela représente 60% de son chiffre d'affaires, l'exemple parfait d'une mutation réussie.
Le New York Times a compris avant les autres qu'il devait se transformer.
Mais il a pensé très tôt à une politique d'abonnement numérique différente, en proposant une grande variété de formules. Ça a payé en 2013. Pour la première fois, son nombre d'abonnés en ligne a dépassé celui des abonnés papier. Une anticipation qui permettra au journal de survivre lorsque la presse papier disparaîtra. Il n'empêche que même si elle est en crise, elle est toujours là. Alors qu'en 2012, des experts la voyaient morte, en 2017 aux États-Unis et en 2029 en France.
Et justement, où en est la presse papier française?
Ses ventes physiques ont encore reculé de 3% l'an dernier, mais ça ne signifie pas que tout est perdu, car les ventes numériques ont progressé de 42%. L'écran est en train petit à petit de remplacer le papier, mais c'est toujours de la presse écrite, les contenus sont les mêmes, on a juste changé notre outil de consommation. Cela dit, beaucoup croient encore à l'avenir du papier. C'est le cas du groupe Le Figaro, dont le journal du même nom est le plus lu en France avec 300 000 lecteurs par jour. Il tire 40 à 50% de ses revenus du papier et s'apprête même à sortir un nouveau magazine, le Journal des Femmes, calqué sur le site internet éponyme.
Le papier n'est pas mort, donc allez, l'invité de l'Infomédia ce matin est l'un des auteurs d'une enquête sur Vincent Bolloré.
Bonjour Nicolas Vescovici.
Bonjour.
Vous êtes journaliste d'investigation, notamment pour Envoyé spécial ou Cash Investigation. Et vous co-signez avec Jean-Pierre Canet le livre Vincent Tout-Puissant. Alors Bolloré, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, comment on peut le présenter?
Alors c'est un patron tout-puissant qui règne sur un empire familial depuis le début des années 80 et qui a construit petit à petit, à partir d'un groupe en faillite, sa toute-puissance en rachetant des entreprises, tout simplement, jusqu'à racheter, il n'y a pas si longtemps encore, le groupe Vivendi, qui est l'un des tout premiers groupes de médias au monde.
Propriétaire de Canal+, pourquoi vous êtes-vous penché sur ce personnage controversé?
Alors, si on s'est penché sur lui, c'est qu'il s'était attaqué à nous, en fait. En 2015, nous avions fait un documentaire sur une banque, le Crédit Mutuel CIC, qui détenait une banque privée, la banque Pache, que nous soupçonnions d'évasion fiscale. Et ce documentaire a été censuré directement par Vincent Bolloré. L'histoire est assez longue, mais finalement ce documentaire est passé sur les antennes de France 3. Et à partir de ce moment-là, on s'est demandé qui était Vincent Bolloré. Pourquoi s'était-il intéressé de si près à nous, alors que nous ne lui avions rien demandé, nous ne faisions que notre travail. C'est comme ça qu'on a essayé de comprendre quelle était sa mécanique, comment ce grand patron fonctionnait et quels étaient ses réseaux d'influence.
Et justement, pour ce livre, il a tenté de vous faire taire, hein. Vous avez des petits problèmes avec lui.
Alors oui, au milieu de l'enquête, en janvier 2017, alors que je ne faisais que mon travail, c'est-à-dire faire le contradictoire, c'est-à-dire je lui avais envoyé des questions directement pour qu'il puisse répondre. Avant, je lui avais demandé évidemment un entretien. Sa seule réponse a été simple, claire et nette. Il m'a envoyé un huissier à ma porte, à mon domicile personnel, pour me réclamer, non pas lui directement, mais le groupe Vivendi, 700 000 euros de dommages et intérêts pour lui avoir simplement envoyé des questions alors que l'enquête n'était même pas publiée. C'est une attaque préventive inédite. Je n'ai jamais vu, et les avocats du droit de la presse que j'ai consultés n'ont jamais vu une attaque pareille.
Et là, ça en est où?
Alors, ça en est nulle part. L'assignation court toujours et on attend de se retrouver devant le tribunal, à moins que Vincent Bolloré ne retire son assignation, ce qu'il fait de temps en temps.
Il supporte aucune critique, Vincent Bolloré?
Oui, depuis quelques années, on a l'impression que Vincent est véritablement tout-puissant et qu'il n'accepte aucune critique ni de la part de ses employés, ni de l'extérieur. Et quand on regarde de trop près ses affaires, notamment en Afrique, eh bien sa seule réponse, c'est d'attaquer en diffamation.
Alors il était l'invité de l'émission Bain de minuit de Thierry Ardisson en 87. Vous citez d'ailleurs cet exemple dans votre livre. Et lui, il devait dire ses principaux défauts, voilà ce que ça donne.
Têtu sûrement. Deuxième défaut, sûrement trop gentil, c'est-à-dire que je m'occupe beaucoup de ce que font les gens. Et puis troisième défaut, je crois à un certain nombre de choses et j'essaie de les appliquer coûte que coûte, même quand l'histoire me donne un peu tort.
Voilà, têtu, trop gentil, vous auriez dit ça, Nicolas Vescovici?
Alors presque en fait, oui, je suis assez d'accord avec lui, puisqu'il est, vous savez, son surnom qu'on lui a donné là, dans les années 80, fin des années 80, c'était le Smiling Killer. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, il est très affable, très gentil, il vous tape dans le dos et vous êtes son copain au bout de 5 minutes.
Il y a un revers de la médaille.
Sauf qu'il y a un revers de la médaille. Dans Smiling Killer, il y a aussi Killer. Et donc, Vincent Bolloré ne s'embarrasse pas de principe. Et s'il a besoin de vous éradiquer, de vous faire tomber, de vous faire démissionner, il le fait dans la minute.
Il est aussi surnommé le Boa, hein, parce qu'il enroule ses adversaires.
C'est le surnom qu'on lui a donné, parce qu'en fait, il ne tue pas, il coupe la circulation sanguine comme le Boa et vous fait mourir en peu de secondes.
Il y a une chose qui m'a marqué moi dans ce livre, c'est vous révélez que Canal+, les chiffres de 2015 ont été volontairement noircis par Vincent Bolloré et Vivendi. Comment vous expliquez ça ?
C'est une stratégie assez classique. Il a voulu noircir la situation financière de son groupe pour deux raisons principales. D'abord, pour faire passer la pilule auprès de ses salariés d'un plan d'économie drastique. Et ensuite, pour essayer de faire croire au CSA que son entreprise n'allait pas bien et qu'il fallait qu'il récupère des droits sportifs sur beIN Sport. Vous savez que Canal souffre aujourd'hui de manque de droits sportifs, notamment dans le football. Et il a essayé de noircir le tableau pour faire en sorte que le CSA lui donne en gros ce qu'il souhaitait.
Quel rôle joue-t-il à Canal+, à CNews, ex-Télé? Est-ce qu'il censure des sujets? Il impose une ligne éditoriale pour arranger son business?
Alors, il suffit de regarder ces journaux gratuits, il suffit de regarder comment Direct 8 avant D8 fonctionne pour voir que ces chaînes de télé ou ces journaux gratuits, son journal gratuit, ne fonctionnent qu'au service de ses intérêts financiers. Il n'est pas possible aujourd'hui pour un journaliste de CNews ou de papier ou télé d'aller enquêter sur les affaires de Vincent Bolloré. C'est impossible.
Vincent Tout-Puissant, donc c'est le titre de votre livre, il l'est vraiment?
Il l'est, oui, bien sûr qu'il l'est. Il suffit de voir comment ses employés, ses cadres ont peur. Ce qui domine dans ce bouquin, c'est vraiment la peur que fait régner Vincent Bolloré. D'ailleurs, il le dit lui-même, un peu de terreur ne fait pas de mal au management d'une entreprise. Oui, il fait régner la terreur dans son entreprise. Oui, les salariés ont peur de s'exprimer.
D'ailleurs, il y a très peu de témoins qui ont voulu que vous citiez leur nom. Hein.
Absolument.
Ouais, merci beaucoup, Nicolas Vescovici.
Merci à vous.
Et votre livre, Vincent Tout-Puissant, coécrit avec Jean-Pierre Canet, vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci, Céline Baillet-Darcourt.